Arrache, tu vois ce que je vois?
Ouais, je le vois. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Bonjour et bienvenue dans La Moto de qui déjà, le podcast qui avec vous essaie de comprendre comment un million de chauves-souris a pu arriver sous un pont à Austin, car oui, nous n'avons rien d'autre mieux à faire de nos vies. Heureusement, je ne suis pas seul pour me poser cette grande question philosophique. J'ai à côté de moi Camille. Bonjour Camille.
Salut.
Et Brice. Bonjour Brice.
Salut, t'as pas idée à quel point j'ai pas envie d'être là.
Ah bah écoute, moi ça me fait bien plaisir que tu sois là parce que je me serais senti un peu seul si j'avais dû traiter de ce bouquin tout seul. Camille, tu nous disais un peu plus tôt qu'il pleuvait très très fort autour de toi, donc ne vous inquiétez pas chers auditeurs, Camille n'est pas en train de se noyer, c'est juste la pluie.
Oui, malheureusement je suis entourée de baies vitrées et de Velux au dernier étage d'un immeuble. Donc malheureusement on va être un peu dans une ambiance mélancolique pour clôturer cette saison.
Ambiance apocalyptique pour cette fin de saison, puisque oui... C'est la dernière ligne droite, c'est le dernier épisode, nous allons terminer le livre. Avant de reprendre, donc nous avions arrêté au milieu du chapitre 18, un chapitre anormalement long, on peut le dire, hein, un chapitre qui fait plus d'une trentaine de pages, ce qui était quand même assez anormal avec le rythme jusqu'ici. Un chapitre qui aura vraiment pu être découpé différemment, j'ai toujours pas compris ce choix. Mais je voulais donc revenir sur quelque chose que j'ai dit la dernière fois, en parlant du nœud papillon que portait Roscoe. Eh bien, ce n'est pas un nœud papillon, c'est Opal qui est accroché à son cou, et donc il fait une blague sur le fait qu'il doit nettoyer son nœud papillon. En fait, c'est juste Opal qu'il va falloir qu'il jette dans une baignoire. Je l'avoue, je l'ai lu à la va-vite, c'était la dernière phrase, je n'en pouvais plus, j'étais à l'article de la mort. Heureusement donc, nous avons coupé ce chapitre 18 en deux, puisque la suite du chapitre 18, moi je vous le cache pas, j'ai eu des PTSD du chapitre 12. Je sais pas si vous, ça vous a fait la même chose.
Complètement.
Mais globalement, alors au tout début de ce chapitre 18, ils vont donc en pique-nique à 4, accompagnés de leurs millions de chauves-souris qui sont leurs potes, au fameux pique-nique de Willie Nelson. Et Opal dit aux chauves-souris de manger les moustiques, puisque c'est manifestement la seule chose que les chauves-souris sont bonnes à faire, n'est-ce pas? Et pour la première fois de l'histoire des pique-niques de Willie Nelson, personne ne s'est fait piquer par un moustique. Et alors là, Trinity et Colorado ne se sentent plus de joie, puisque Johnny Cash est sur la scène, et c'est parti pour du mojo partout, et c'est parti pour le meilleur... pique-nique du 4 juillet de tous les temps, puisque nous le rappelons, hein, tout est superlatif chez Ernest Cline, c'est toujours le meilleur truc de tous les temps, à tous les coups. Et c'est comme ça que les chauves-souris deviennent amis avec Willie Nelson, entre parenthèses, et avec Johnny Cash aussi. Avant que je passe à la suite, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce nouveau développement, qui est donc que les chauves-souris vont devenir Pinko? Avec plein de gens.
Alors, moi, il y a une phrase que j'avais notée, c'est « Le destin continua à tisser sa propre magie mystérieuse en mettant Opal et les chauves-souris en contact avec tous les Austinois au moment opportun. » Et j'ai trouvé que c'était d'une fainéantise, c'est vraiment le « ta gueule, c'est magique » d'Ernest Cline qu'on commence à bien comprendre maintenant. Et en fait, s'ensuit, après le chapitre qu'on lui connaît, une descente aux enfers.
C'est ça, c'est la sérendipité absolue. Hein. Il rencontre exactement les bonnes personnes, exactement au bon moment. Quelle coïncidence, puisque donc les jours suivants, comme tu le dis, Opal et les chauves-souris vont rencontrer les bons habitants au bon moment, à savoir Rick et Lee, qui sont comme par hasard ses voisins, et qui réalisent un film qui s'appelle... Slacker, donc Rick, c'est Richard Linklater, évidemment, hein, parce que ça pouvait pas être juste un random péon, non, il fallait que ce soit une célébrité. Les chauves-souris mangent les mouches qui perturbent le tournage. Et oui, les chauves-souris ne mangent pas que des moustiques, elles mangent aussi des mouches. Et voilà, le tournage qui était fortement perturbé par les mouches est sauvé par les chauves-souris, au point qu'Opal obtient un petit rôle dans le film.
Oui, ah oui, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis, évidemment, ce film devient le meilleur jamais tourné à Austin.
Alors, personnellement, je n'ai pas vu Slacker de Richard Linklater. J'ai vu d'autres films de lui. Hein. C'est un réalisateur que j'apprécie jusqu'ici. Je suis un petit peu triste qu'il ait accepté d'être mêlé à cette vaste mascarade. Mais si ça se trouve, Cline ne lui a même pas demandé son avis, en fait.
Je pense que... Enfin, la question se pose même pas. Il a demandé à personne, évidemment.
Oui, je pense pas qu'il ait pris la peine de demander. Hein. Et c'est donc ainsi qu'Opal et les chauves-souris deviennent amis avec avec Richard Linklater et son pote Lee, dont j'ai oublié de noter le nom de famille, je suis absolument désolé, mais qui est le co-réalisateur de Slacker. Donc vous voyez, là c'est là que j'ai commencé à avoir des PTSD du chapitre 12, parce que je me suis dit, attends, il va nous refaire ça combien de fois dans ce chapitre? Et la réponse est beaucoup trop de fois.
4, 5.
Puisque les chauves-souris, ouais, les chauves-souris deviennent potes avec Amy de Amy's Ice Cream. Alors là, j'avoue que moi, j'ai pas la ref. Hein.
Bah, c'est comme si tu devenais pote avec Ronald McDonald, en gros.
Ouais, d'accord. Amy's Ice Cream, c'est une franchise que je ne connais pas, mais si ça se trouve, c'est une célébrité locale à Austin. Ils deviennent potes avec Daniel Johnston. Daniel Johnston, qui est donc un chanteur, avec sa grenouille qui a l'air bizarre. Et en fait, c'est, oui, la jaquette de sa maquette qu'il distribue en cassette avec une espèce de mélange entre une grenouille et un alien qui dit « Hi, how are you ?» et qui est devenu célèbre.
Il y a quelque chose qui m'a un petit peu marqué avec Daniel Johnston, c'est vraiment, il se présente en une phrase, il dit « Je suis Daniel Johnston, auteur-compositeur, mais je bosse aussi au McDo. » Et j'ai eu des petits relents de syndrome MTV, un peu comme dans l'émission Next, où chaque personne doit s'introduire comme en accumulant des faits personnels complètement absurdes, genre j'ai déjà bu ma pisse, ou je suis mortellement allergique à Laurent Gérard. Et vraiment, c'est je suis Daniel Johnston, auteur-compositeur, mais je bosse aussi au McDo. Et je me suis dit, ok, c'est gênant.
J'aime bien les deux extrêmes entre boire sa pisse et être allergique à Laurent Gérard. Les deux sont compatibles.
T'as jamais vu Next? C'est littéralement non. Comme ça, je n'ai rien inventé.
Mais c'était un truc de dating, non, Next, si je ne m'abuse?
Ouais, mais c'est devenu un petit peu un mème, cette façon de se présenter en quelques anecdotes sur toi, et c'était souvent complètement ridicule.
D'accord. Brice ?
Non, cela dit, il a réussi son pari, en fait, avec cette présentation-là, puisque première chose que j'ai faite en lisant cette description incroyable, c'est d'aller vérifier sur Wikipédia 2-3 trucs. Et alors, malheureusement, vous le saurez pour la suite aussi, pour cet épisode, j'ai pris 0 note. Donc je sais même plus ce qu'il y avait sur la page Wikipédia. Je sais juste qu'il y a un passage assez sombre, en fait, et du coup... Je sais pas, je trouvais assez bizarre, en fait, pour des enfants. Enfin, tu choisis librement qui t'introduit, tout ça. Enfin, visiblement, vu que sa timeline, elle va de début 80 à fin 80, il avait vraiment le choix. Hein. Mais pareil, je comprends pas. Un enfant, il comprend pas. Qui c'est? C'est qui? T'es qui, frérot?
Ben, c'est des références qui sont suffisamment obscures pour qu'effectivement, si t'as pas grandi à Austin, tu l'as pas. Si t'es pas américain, tu l'as pas. Si t'étais pas un enfant aux années 80, tu l'as pas. Enfin, ça nécessite, en gros, si t'es pas Ernest Cline, tu l'as pas, quoi. Ça nécessite vraiment beaucoup, beaucoup trop de spécificité. Pendant que vous avez peut-être entendu, la chatoune est en train de complètement faire tomber mes bouquins sur mon étagère à côté de moi. Reprenons. C'est ainsi, donc, qu'Opal et les chauves-souris deviennent amis avec Daniel Johnston. Et ensuite,
mais,
on passe
sur... Non, attends. Moi, j'ai des choses à dire parce que,
vas-y.
Le passage est un petit peu plus long et tous les chants, j'ai complètement lunaire. Donc, il dit, je bosse au McDo. Elles font, OK, bah, nous, on se bat pour les chauves-souris. Elles vivent sous un pont. Et il dit, ouais, moi aussi, j'ai vécu sous un pont.
Oui.
C'est trop gênant. Tu vois, tout l'ensemble est archi gênant. Et après, il se rattrape et il dit, ah, Austin est une ville tellement spéciale, tellement pas comme les autres. Enfin, vraiment, moi, tout cet échange, je serrais le cul, quoi. Je me disais, mais où est-ce qu'il va m'emmener?
Les ponts d'Austin sont pas comme les autres.
C'est vraiment, tout est horrible.
Mais lui ont donné un exemplaire de Badzine, donc, ça va. Je pense que le mec, ça lui a permis de relativiser un peu sa situation, tu vois.
Oui, c'est sûr que c'est mieux qu'une thérapie.
Et derrière, on passe à Blaze Foley, et c'est le moment où j'ai noté, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Je m'en tape, je veux pas savoir qui est ce type, donc du coup, j'ai rien noté sur lui, j'en ai rien à secouer, en fait.
Ouais, pareil.
Et en revanche, ce que j'ai noté, c'est que là, les chauves-souris deviennent même pas amis, c'est juste pour name-dropper Blaze Foley. Voilà. Je ne sais pas qui est ce gars, je ne veux pas savoir, j'en ai rien à cirer. De toute façon, ils deviennent même pas amis, donc ça change rien dans ma vie, en fait.
Je suis en train de feuilleter le bouquin en même temps que tu parles. Et du coup, je suis sur cet encadré Blaze Foley, tout ça. Chose préférée, le duct tape. Il adore les duct tape et il en a partout sur ses vêtements.
Oh putain, mais... bah, franchement, ils auraient pu échanger des conseils stylistiques de mode avec Opal et son costume turquoise, franchement. C'est peut-être ça qui les a rapprochés. Donc suite à ce name dropping interminable, l'oncle Roscoe emmène Opal à un enregistrement de l'émission Austin City Limits.
Bien sûr.
Et c'est le soir où Stevie Ray Vaughan joue Alors Stevie Ray Vaughan, il a fait Austin City Limits deux fois, en 83 ou en 89. Brice, un commentaire sur les dates ?
Je ferme ma grande bouche depuis tout à l'heure, mais on est sur une dingue de dingues, hein, parce que si tu veux aller par là, si quelqu'un avait le temps, avait fait une petite liste, en fait, je suis en train de parler juste en feuilletant, en fait. J'appuie sur le bouton pour remonter sur les pages, parce que j'ai noté des dates, en fait, à des endroits.
T'as pas pu t'en empêcher, hein.
Et par exemple, je pourrais vous dire, bah en fait... Slacker, il a été tourné en 89, par exemple, tu vois. Donc peut-être qu'on a fait un saut dans le temps ou autre chose, mais ça, on reviendra sur ça, malheureusement, à la fin.
Oui.
Pareil, Amy's Ice Cream, 84, l'ouverture.
D'accord.
Donc voilà, ça fait plusieurs épisodes qu'on en parle, on est peut-être un peu chiant avec ça, mais ouais, il a décidé de se faire son Ready Player One, en fait.
C'est ça.
C'est juste citer des trucs années 80. Il a vraiment tapé sur un Wikipédia ou autre chose, Austin, années 80, et il s'est pas fait chier. Ça serait bien qu'il confirme ça quelque part à un moment, genre une postface, ou j'en sais rien, on verra. Est-ce qu'il le fera ?
Mystère.
Oui.
Donc les chauves-souris les rejoignent à l'enregistrement, et là, on apprend qu'à cause de la musique, eh bien, les chauves-souris ne peuvent pas résister. C'est marrant, hein, ces chauves-souris qui ne résistent jamais. À aucun moment, elles entendent trois notes de musique et là, soudainement, elles ne peuvent pas résister. C'est plus fort qu'elles. Et ça balance du mojo. Et là, c'est la meilleure performance des artistes de toute leur vie. Parce qu'évidemment, il fallait que ce soit la meilleure. Mais c'est littéralement écrit « Best performance of their lives ». Donc, il en peut plus là du superlatif, Ernest Cline. Mais là, malheureusement, les chauves-souris sont repérées. Et c'est la panique dans l'audience. Et qui c'est qu'on appelle ? Eh ben, c'est pas SOS Fantôme, on appelle les Bat Catchers. Et c'est la fin de ce chapitre 18.
Moi, j'avoue, avec honte, mais sans mensonge aucun, une part de moi a espéré que tout se termine là. Je me suis dit, ça va être la déconfiture, on va avoir une fin catastrophique au Palais Roscoe dans une souffrance pure. Et c'est terrible parce qu'il y a eu une espèce de forme de jouissance, malheureusement.
Les chauves-souris se font massacrer.
Non, je souhaite pas de mal aux animaux. Mais je me suis dit qu'il me restait un petit peu trop de pages. Du coup, j'ai ravalé ma salive et ma liesse et je suis reparti pour le reste.
J'avouerais que c'est la première fois que j'ai été satisfait... d'un cliffhanger Klein. À chaque fois, on avait des trucs du genre « mais il se trompait, mais ça ne se passerait pas comme prévu ». Et là, c'est vraiment la dernière ligne, effectivement. Et ils ont appelé, je ne sais pas comment c'est en français, mais ouais, « Then they called the bat catchers ».
Les chasseurs de chauves-souris. Titou le tatou.
Donc voilà, c'est le gros cliff sur lequel nous laisse Ernest. Les bat catchers arrivent. Et chapitre 19, bah en fait, les bat catchers, apparemment, ils n'ont pas eu trop de mal. Ils ont attrapé tout un tas de chauves-souris. Alors, ils ont attrapé au moins les 12 du gang de la corde à linge. Donc, ça veut dire qu'il en reste...
3 millions ?
999 988 en liberté. Mais écoutez, on est pas mal. Et t'as vu, deux têtes, hein, le calcul. Donc, Opal... Alors, j'ai noté un truc. Ernest écrit « Opal demanda à son oncle de conduire la baladeuse ». Et non pas de balader la baladeuse. Donc tu vois, il a oublié qu'il avait inventé un verbe pour dire conduire la baladeuse, qui était balader.
Ou alors Opal a gagné en maturité.
C'est parce que c'est la maxi déprime, c'est tout. C'est la déprime. Les chauves-souris sont enfermées. C'est enfin ambiance fin du monde. C'est fini les balades.
on a plus le temps d'utiliser les verbes qu'on a inventés. Donc on n'utilise plus tout rumble. Maintenant on drive the rumbler.
Enfin, je dis ça, mais je suis quasi sûr que dans le chapitre, il a pas pu s'empêcher d'écrire les furry little critters ou des choses comme ça.
C'est possible. Et puisqu'on parle de Furry Little Critters, eh ben, coïncidence incroyable, une fois de plus, la sérendipité, une fois de plus. Alors que Opal et Roscoe sont en train de déprimer sur leur canapé à regarder David Letterman, on rappelle, hein, Roscoe probablement avec ses bottes de cow-boy, son pyjama Star Wars et son chapeau, il voit qui invité chez Letterman ? Merlin Tuttle. Coïncidence extraordinaire, puisque Merlin Tuttle est un préservationniste spécialiste des chauves-souris. Et ça tombe quand même super bien, puisque Opal et Roscoe, ils ont un petit problème de chauve-souris. Et que leur problème, c'est d'essayer de convaincre les gens que les chauves-souris sont nos amis. Alors ce gars-là, quand même, c'est... Quel coup de bol, quand même. Quel coup de bol, sachant que sa vraie interview chez Letterman, c'est le 27 novembre 84.
Oui, j'abandonne.
Puisque le type existe vraiment. Hein. J'ai cherché... il n'allait pas inventer un Merlin Tuttle.
Oui, bien sûr.
Donc ils appellent Merlin Tuttle et Merlin Tuttle prend la totalité de ses biens, fout tout dans sa bagnole et part pour Austin.
La totalité.
T'imagines ? Tu reçois un coup de fil d'une petite dingo qui dit ouais, j'arrive à parler aux chauves-souris, les chauves-souris à Austin elles sont en danger, faudrait que vous veniez. pas de problème, je traverse la moitié du pays avec toutes mes affaires dans ma voiture, j'arrive, gamine.
Et surtout qu'il l'appelle en pleine nuit.
Ah oui, et il répond.
Et qu'ils ont réussi à obtenir leur numéro de téléphone en contactant l'opératrice de l'émission. Ils ont dû l'harceler pour qu'elle file le numéro. Enfin, il y a rien qui va. C'est une catastrophe.
Non mais madame, je vous jure, je parle aux chauves-souris, il faut que je parle à Merlin Tuttle, c'est une question de vie ou de mort. Madame, je te jure.
Je suis bizarre.
Il est bizarre comme moi.
Je ne suis pas comme les autres. File-moi ce numéro.
Donc Opal présente Merlin aux chauves-souris qui sont libres. Et puis, il l'emmène à un barbecue. Parce qu'on l'a noté, comme depuis le début, hein, Opal et Roscoe, qui sont donc fauchés, ne mangent jamais chez eux. Ils passent leur temps à bouffer au resto. C'est quand même beau, la vie à Austin. Quelle belle ville, quand même.
J'aime la vitesse à laquelle t'as expédié le fait que les chauves-souris soient libres.
Oui, parce que, franchement, on s'en tape, quoi.
Mais non, c'est surtout que Klein l'a aussi expédié à cette vitesse-là, en fait.
Voilà.
Il nous a mis au chapitre, à la fin du chapitre précédent, un truc dramatique, ouais, les bad catchers et tout ça. Tu te dis, oh, et qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir de l'infiltration, est-ce qu'on va aller sauver les chauves-souris et tout ça? Non, il y a le mec qui était à la télé hier soir, là, il est venu et il a fait un petit exposé sur les chauves-souris, il les a récupérés. C'est okay.
Il a fait son PowerPoint et les 12 chauves-souris ont été libérées. Faut quand même rappeler, 12 sur 1 million, les autres sont encore là. Hein. Et donc, Merlin se rend au conseil municipal parce qu'il dit, regardez comme elles sont choupies, les petites chauves-souris, et voilà, quoi. C'est pratique. Alors, on a McErno, le méchant McErno, le conseiller municipal d'Austin qui est inflexible. Et là, on t'apprend que t'as un sondage, la population est à 50-50 sur les chauves-souris. Il y a 50% de la population qui est pour les chauves-souris, on sait pas pourquoi. 50% de la population qui est contre les chauves-souris. Et c'est la fin du chapitre qui fait 8 pages, alors que le 18 en faisait 34 pour aucune putain de bonne raison. C'est un des chapitres les plus courts du bouquin. Et c'est le chapitre où t'as globalement la résolution du problème, quoi.
Bah, de tous les problèmes, avec un mec qui est apparu comme par magie à 20 pages de la fin, quoi.
C'est quand même assez extraordinaire, cette résolution magique. Alors, on a un peu l'habitude des résolutions magiques hein, dans les bouquins de Klein. C'est pas la première fois qu'un truc se résout magiquement. Mais alors, il y a un truc que moi j'avais noté avec mes précédentes expériences sur les bouquins de Klein, c'est que généralement, la fin me raconte le truc que j'aurais voulu lire. Par exemple, à la fin d'Armada, on te présente une nouvelle société, tout un tas de trucs où tu dis « Ah tiens, c'est ça que j'aurais voulu lire en fait, pas tout le délire sur The Last Starfighter qu'il y avait avant. » À la fin de Ready Player 2, on te présente une espèce de monde semi-virtuel avec un vaisseau qui dérive dans l'immensité avec l'ADN des gens et tout. Tu dis « Ouais, bon, ça, à la limite, ça peut être le départ pour une belle histoire de SF. » Toutes les conneries d'avant avec l'ONI et tout le bordel, on s'en battait les steaks. Est-ce que ça va être le cas avec Bridge to Bad City? Est-ce que le dernier chapitre va mettre en place l'histoire? Enfin, est-ce que les deux derniers chapitres vont mettre en place l'histoire qu'on aurait voulu lire? Eh bien,
non.
Nous allons le voir.
Non, la réponse est non, on peut arrêter là en fait.
quel suspense extraordinaire.
Allez, c'est le début avec ce chapitre 20 qui nous raconte un conseil municipal.
Ouais, vraiment, ça commence avec l'équivalent municipal d'un Met Gala. Hein. Roscoe abandonne son jogging Palpatine et range sa couille pour enfiler la veste en jean sertie de pierres précieuses. C'est extraordinaire.
Voilà, Opal met son costume turquoise. On t'apprend que des centaines de gens viennent au débat sur les chauves-souris et que des milliers le regardent à la télé. Et moi, j'ai ouï dire, il y en a même des milliards sur Twitch. c'est extraordinaire que Ernest Klein essaie de te faire croire qu'il y a autant de gens qui ont quelque chose à foutre de ce débat à la con sur les chauves-souris dans Austin. Opal, donc, assise au premier rang avec, tu l'as dit, son costard turquoise, Roscoe et sa veste en jean. Les chauves-souris sont là contre la vie d'Opal, mais they couldn't help themselves. Et là, je l'ai souligné, c'est quand même des chauves-souris qui ont, a priori, aucune volonté propre, hein, mine de rien. Que ce soit pour la musique, que ce soit pour ça, Klein les décrit comme des animaux qui finalement n'obéissent qu'à leurs instincts, ne peuvent absolument rien faire d'elles-mêmes, n'ont pas de volonté propre, n'ont pas de libre arbitre. Globalement, c'est des victimes permanentes, en fait. Elles passent leur temps à réagir de manière impulsive, sans pouvoir s'en empêcher. C'est pas un très beau portrait de l'animal qu'Ernest Klein nous décrit ici.
Oui, mais elles mangent des insectes.
Heureusement, elles mangent des insectes. C'était donc un big old beautiful mess of bats. Moi, j'ai écrit que ça ne veut rien dire. Il voulait juste plater big old beautiful. Maria explique que les chauves-souris mangent les moustiques.
Oh!
Alors, attends, parce que, il y a d'autres trucs, je me permets de t'interrompre. Hein.
Je t'en prie.
Mais il y a tout un truc où Opal est censée parler. Mais en fait, elle panique et parce qu'elle ne peut pas balancer en boucle la cassette audio des funérailles de sa mère, en référence au chapitre 4. Et c'est con parce que c'est sa plus grande force oratoire. Et après, le mec parle avant que Maria prenne la parole.
Ah oui, McErno parle, tu veux dire?
Ouais, McErno parle et ensuite, l'expert dont j'ai zappé le nom prend la parole aussi.
Total.
Merlin Tuttle.
Absolument. Voilà. Et ben Merlin Tuttle parle avant que Maria prenne la parole.
Okay, globalement, c'est une redite du chapitre 19, en fait. Globalement, il refait la même présentation PowerPoint, en gros.
Exactement.
C'est pour ça que j'ai rien noté, mais tu as raison. Tu as raison D'accord. de le signaler. Non, non, tu as complètement raison. C'est globalement une redite, hein. Ça ne sert à rien.
Non, mais parce que, à ce moment-là, revient un traumatisme terrible, la grande et belle vieille grotte dans le PowerPoint de ce monsieur.
J'ai noté Elena distribue des exemplaires de Badzine, à n'en pas douter, ça va franchement changer les avis des gens. Oui, il part de la grande et belle vieille grotte et puis t'as Anne Richards qui arrive, et moi j'ai noté Anne Richards figure quasi divine en
oui,
fait.
Oui, complètement.
Elle débarque là, et la manière dont c'est décrit, t'as l'impression qu'elle est auréolée de lumière. Elle arrive dans le débat, et puis soudain, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Et donc, elle explique, mais oui, mais les chauves-souris mangent les insectes. On t'explique que, ouh, Mukerno, c'est un vilain capitaliste, ouh.
Un vilain capitaliste chauve.
C'est important de le noter.
Il passe, je sais pas, 5 lignes à le décrire, en fait, et... vraiment.
Joe Dalton, en fait. Le truc, c'est Joe Dalton.
Je crois que j'ai appris un nouveau terme, bah, du coup, qui n'est évidemment pas en français. Attends, je le recherche. A cowlick, c'est ça? Il a un comb over et un cowlick.
Alors, comb over, ça, ouais. C'est simple. Ça veut dire que, en gros, tu repeignes le peu de cheveux que t'as pour faire couvrir le dessus et faire style. Regardez, c'est pas du tout dégarni.
Oui, tous les mecs de plus de 30 ans connaissent, oui.
Voilà. Colic, je suis pas familier avec le truc, donc je te cache pas que je ne sais pas. A cowlick is a section of human hair that stands straight up or lies at an angle at odds with the style in which the rest of... C'est ça, c'est un épi, en fait.
Ok.
Ah, okay.
C'est quand t'as une coupure de cheveux, une certaine coiffure, et puis t'as un épi qui dépasse. Donc oui, on a une description du physique de Monsieur Mukerno, qui donc évidemment est chauve, évidemment un physique disgracieux, n'est pas beau, enfin voilà.
Il est méchant.
Mais surtout est un sale capitaliste, puisque c'est le méchant qui a fait exploser la grotte pour exploiter donc le calcaire qu'il y avait dedans, et puis qui aussi, via son entreprise Mukerno Chemicals, vend des pesticides pour tuer les insectes que les chauves-souris mangent. Et donc les chauves-souris, ça les nique son business. Et voilà. Et c'est ce qu'explique Anne Richards, qui, on l'explique, comme toute politicienne américaine, est évidemment anticapitaliste, n'est-ce pas? C'est bien connu. Donc Mukerno se fait huer, et là, attention, débarque le coach de l'équipe de foot. Et alors ça, j'ai trouvé que c'était quand même un grand moment. Le coach de l'équipe de foot...
Je crois qu'il est jamais nommé, en plus.
À aucun moment il est nommé. C'est le coach de l'équipe de foot. Donc tu peux te l'imaginer avec le t-shirt, le short, la casquette, la grosse moustache. Moi, c'est comme ça que je l'imagine, tu vois. C'est une sorte de John Cena avec une moustache. C'est comme ça que j'imagine le coach de l'équipe de foot.
Ted Lasso.
C'est
ouais,
Ted Lasso en plus costaud.
D'accord.
Mais ouais. Mais voilà, Ted Lasso avec des pecs. bah oui, il explique les moustiques, quoi. Les moustiques, merde. Et puis le coach fait donc son explication que quand même les moustiques, c'est cool que les chauves-souris les mangent, parce que c'est le seul argument qu'ils ont quand même, hein. Depuis le début, ils en ont rien à foutre que les chauves-souris peuvent être porteuses de maladies, puisque de toute façon Roscoe a dit que c'était faux, alors que c'est vrai. Leur seul argument, c'est les insectes. Et le coach, il a BBBB sur ses mains. Et ça, c'est extraordinaire.
BBBB, ah oui,
on le rappelle. The bats belong beneath the bridge. VCSP en français, je pense.
Vive les chauves-souris du pont.
Voilà, VCSP.
Je suis en train de me demander si à Austin, sans que personne soit au courant ou autre chose, ou si j'ai été mal informé, est-ce qu'il y a eu une punition divine, biblique, en fait, avec des moustiques par milliers qui sont arrivés comme... je comprends vraiment pas.
Austin est un marais, en vérité.
C'est pas impossible que, comme beaucoup de villes américaines, Austin ait été bâti sur un marais, ouais. Ça, c'est pas impossible.
Ouais, mais au point que ce soit littéralement le seul argument sur maintenant 20 chapitres...
Après, les moustiques, c'est chiant. Hein.
C'est chiant.
Mais oui, la citronnelle, c'est assez efficace, quand même.
Mais quand tu penses à un match de foot, quand tu penses à un concert ou autre chose comme ça, le premier truc, en fait, pour lequel tu te dis « Oh, je veux pas y aller », c'est pas « Putain, il y a les moustiques ». C'est « Oui, les gens sont chiants, oui ». Enfin, je sais pas, imaginez. Mais pas les moustiques, quoi. C'est vraiment après coup.
Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, dis-toi que quand Richard Linklater débarque au conseil municipal, il explique les moustiques, quand même.
Mais en fait, ce chapitre, c'est vraiment une espèce de rétrospective sur l'entièreté du bouquin, où chaque personnage que les héros ont croisé revient poser son petit mot. Les chauves-souris sont super, elles mangent les moustiques, elles m'ont sauvé la vie, elles ont payé mes études et m'ont offert une étreinte dans la nuit. Enfin, vraiment, tout le monde y va avec son petit mot bonus. et renverse complètement au final l'opinion publique.
C'est ça. J'ai noté qu'il y avait un petit passage super zarbe sur le premier amendement, où globalement on félicite Opal pour utiliser le premier amendement pour faire pour donner de la voix à ses opinions. J'étais là genre qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? D'où Ernest Cline, il en a quelque chose à foutre de la Constitution depuis 5 bouquins. Donc Opal livre un discours que j'ai noté de merdique, puisqu'elle explique Austin, c'est une ville de bizarre, les chauves-souris ont leur place, moi je suis une bizarre, j'aime bien les chauves-souris parce qu'elles sont bizarres. Mais heureusement, Willie Nelson arrive. Blue skies, smiling at me. Nothing but blue skies, do I see. Blue birds. Singing a song, nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly by. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Willie Nelson arrive et il improvise une petite chanson, il joue Blue Skies, et là, le gang de la corde à linge est incapable de résister, puisque c'est vraiment le truc qui moi, m'a marqué dans le bouquin, ces chauves-souris qui donc sont complètement incapables de libre arbitre. Et donc là, c'est merveilleux, mojo dans tous les sens, et le vote est sans appel, les chauves-souris peuvent rester.
C'est catastrophique.
C'était nul!
Une illustration du mec avec sa guitare et trois chauves-souris au-dessus de lui, on dirait que c'est tiré d'un bouquin religieux, on dirait Jésus le mec.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez biblique dans cette représentation du tout.
Et au premier rang, tu vois effectivement le chapeau dégueulasse de Roscoe.
donc c'est comme ça que se termine le chapitre 20, et il y a un chapitre 21. Et un chapitre 21 qui n'est pas piqué des hannetons.
Qui s'appelle « Le grand et beau vieux pont ».
Oui. Voilà. Donc on t'explique que Austin est donc la capitale des chauves-souris de l'Amérique. Voilà. C'est un fait que... écoute, si jamais un jour je suis à Austin, j'irai voir le pont et les chauves-souris, mais est-ce que j'irai pour ça? Non, probablement pas. Tout est bien qui finit bien. Et la plot twist, le narrateur, en fait, c'était Opal. Alors ça, on l'avait pas vu venir. Alors ça, franchement... entre les extraits de son scratchbook, entre l'utilisation massive des mots qu'elle a inventés, les descriptions à la con et tout, franchement, vous l'aviez vu venir, vous?
Mais surtout, enfin, en fait, je sais pas, il présente ça comme étant le plus gros plot twist de l'histoire. Je n'en ai rien à branler. En fait, moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse expliquer un petit peu, se projeter dans le futur et tout, mais vraiment, ça s'arrête genre... juste après le concert de Willie Nelson, et ben tout le monde est d'accord pour que les chauves-souris restent. Et y a pas vraiment de wrap-up du truc, quoi. C'est immédiatement, le ton change, c'est le narrateur qui prend le relais. Bon, évidemment, le narrateur, c'est Opal, mais y a aucune transition. C'est une douche froide, un petit peu. Pas que je prenais un plaisir démesuré dans les chapitres précédents, mais je m'attendais au moins à une conclusion un peu plus soutenue, quoi.
Ben non, c'est vraiment la fin la plus anticlimatique que possible, avec donc ce conseil municipal qui termine par un vote sans appel parce que le mojo. Et le pire, c'est que ce vote est sans appel parce que le mojo, mais sans le mojo, est-ce que le vote aurait été sans appel? On sait pas si ça se trouve. Moi, pour moi, c'est de l'election interference, comme on dit. Le mojo, mine de rien, c'est de la fraude électorale. Donc oui, ce plot twist dont tout le monde se fout. Perso, le vrai plot twist, ça aurait été que le narrateur se soit titou le tatou, j'aurais préféré.
Non, le vrai plot twist, c'est que Roscoe se marie.
Ah oui, c'est vrai que ça sent... pour le coup, j'ai été très surprise.
Roscoe se marie avec Maria, mais honnêtement, on l'a vu venir, quoi. Enfin, je veux dire, dès la première seconde, elle était complètement zinzin de son chip, de son petit processeur accroché à son chapeau de cow-boy, quoi.
C'est vrai qu'ils ont matché instantanément parce qu'elle a dit « Ah, j'aimerais bien un ordinateur », et puis lui a sorti la page wiki de tous les processeurs du moment.
Voilà, elle a fait une flaque et c'était fini, quoi. surtout qu'en plus, Roscoe devient pote avec Michael Dell. Ça, c'était vraiment... j'ai trouvé la cerise sur le gâteau au caca. Ça ne sert strictement à rien, ça n'apporte vraiment rien, Mais il a fallu que Roscoe devienne pote avec Michael Dell. Limite, il est cofondateur de Dell Computer, Roscoe, tu vois. Donc, et voilà, tous leurs problèmes d'argent sont réglés. Roscoe devient multimillionnaire, comme ça.
Je trouve qu'il a pas, il est pas allé assez loin. Je trouve que le trait n'est pas assez souligné. Il aurait dû mettre Steve Jobs.
Voilà, c'est de toute façon, tout est dans l'exagération tout le temps. C'est une habitude. Opal travaille pour la Texas Parks and Wildlife Department. Alors, sachez que avec les coupes budgétaires qu'a fait le Doge, à mon avis, maintenant, elle est au chômage. Merci Elon Musk. Pour une fois, je suis pour. Et c'est la fin du livre. Enfin, en tout cas, c'est la fin de mes notes. Et mes notes se terminent en écrivant « Putain, c'était nul » en lettres capitales. C'est vraiment la fin la plus nullissime de tous les bouquins d'Ernest Cline que j'ai pu lire.
Alors, si je ne l'ai pas inventé, il y a quand même aussi une mention de la soucoupe volante.
Ah,
elle
oui.
dit « Oh là
ah
là,
oui.
bah, c'est la dernière... » Enfin, je l'ai plus jamais revue. J'imagine que c'était ma mère.
J'ai plus jamais revu de soucoupe volante.
Elle explique aussi son entrée dans un collège blindé de gens bizarres dans lequel elle se sent particulièrement bien car tout le monde est chelou et qu'elle adore les gens chelous.
Ouais.
Mais effectivement, je crois qu'on avait fait un pari en début de livre comme quoi ça ne serait plus jamais mentionné, cette histoire de soucoupe volante.
Ouais. Alors, ça a été mentionné, pour dire qu'elle ne l'a plus jamais revue. Mais
et
voilà.
Je crois que je suis la seule qui avait dit que ça serait mentionné.
Après, est-ce que tu gagnes vraiment? Parce qu'elle le mentionne pour dire que, bon, en fait, on n'en a plus jamais revu, et elle sait toujours pas si c'est ça qui lui a permis de communiquer avec les chauves-souris.
Comme c'est pratique de me refuser cette victoire.
Est-ce que t'es si fier que ça de gagner?
J'aimerais bien au moins une petite victoire, parce que c'était laborieux de fou.
On te la donne.
Merci.
Allez, prends ce win. Écoutez, maintenant qu'on a été bien consterné par la fin de ce livre, qui était vraiment... mais vraiment le plus nul que j'ai lu de tout Ernest Cline.
Non, mais pourquoi
et même
tu
en
rajoutes
admettant...
de tout Ernest Cline? Parce que moi, j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir lu un bouquin aussi merdique. Hein.
c'est vraiment un des bouquins les plus nuls que j'ai jamais lu de ma vie. Même en admettant que c'est un livre pour enfants, enfin, c'est quand même catastrophique. Quoi.
Je pense que j'ai eu l'immense chance de lire des trucs quand j'étais gamine, mais d'une intelligence, et je pense que parce que c'est écrit pour des enfants, ça doit décupler d'imaginaire, de belles écritures, de trucs, enfin, de bestiaires, de je sais pas, ça doit nourrir un truc, quoi.
Bah, je suis entièrement d'accord, et c'était, je pense que c'était, je sais plus si c'est dans une vidéo de Chroma que globalement Karim Debbache disait globalement la même chose, que c'est pas parce qu'un film est pour enfants qu'il faut leur filer n'importe quelle merde, au contraire. C'est vachement important de donner de la qualité à un enfant pour qu'il puisse développer un imaginaire, pour qu'il puisse développer un système de valeurs, pour qu'il puisse se construire. Si t'écris de la merde pour un enfant, bah non, c'est pire encore. C'est largement pire parce que l'enfant n'aura pas la capacité de dire que c'était de la merde.
Ouais, mais... Putain, le fou...
Brice, il est en train de décéder, là.
J'en peux plus. Mais oui, c'est... Je disais, ouais, la seule chose qu'un gamin il en tire, en fait, c'est tout le tatou.
C'est vrai. Mais c'est vrai, parce que le gamin, les références à la belle, il s'en bat les steaks, que l'histoire en elle-même, elle n'est pas si intéressante que ça. Et voilà, quoi. Et heureusement, Ernest nous a gratifié d'une postface.
Que je n'ai pas
lu. Pour nous expliquer pour quelle raison il a eu envie de raconter cette histoire, parce qu'on l'a déjà dit, je crois, mais cette histoire de chauve-souris sous un pont à Austin, c'est une histoire vraie. Il y a vraiment un pont à Austin avec un million de chauves-souris dessous. Que Merlin Tuttle, effectivement, a déménagé à Austin pour aider à la préservation de ces chauves-souris. Donc ça, ces passages-là sont vrais. Et Merlin Tuttle, c'est peut-être une des seules personnes que Ernest Cline a contacté avant le name-dropper, parce qu'il le remercie dans sa postface. Donc Ernest explique qu'il a déménagé à Austin, qu'à la base, Ernest est de l'Ohio, il a déménagé à Austin au milieu des années 90. Et qu'il aime la ville parce que c'est une ville de weirdo, c'est une ville de bizarre, et c'est vrai, le slogan de la ville c'est Keep Austin Weird. C'est aussi le slogan de Portland dans l'Oregon, hein, Keep Portland Weird. Personnellement, à choisir, je préfère vivre à Portland parce qu'au moins c'est pas au Texas, mais bon, chacun ses choix. Et donc voilà, Austin est rapidement devenu la ville favorite d'Ernest Cline, et il a appris donc qu'il y avait à Austin cette immense colonie de chauves-souris, plus d'un million de chauves-souris qui vivaient sous le pont de Congress Avenue, au milieu de Downtown. Et donc il s'est posé toutes ces questions et que son imagination florissante se demandait d'où venaient ces chauves-souris, comment était-elle arrivée à Austin, comment avait-elle été aussi célèbre, quelles épreuves avait-elle dû affronter. Quelle personnalité pouvaient avoir ces chauves-souris? Alors, Ernest, je suis désolé de te l'apprendre, mais tes chauves-souris n'ont aucune personnalité puisqu'elles ne résistent à rien, en fait. Elles sont purement dirigées par leurs instincts. Elles n'ont aucune volonté propre. Il t'explique globalement la vraie histoire, mais la vraie histoire, c'est vraiment pas intéressant. C'est juste que les chauves-souris elles ont, elles sont rendues compte que le pont avait une infrastructure quasiment idéale pour elles pour s'installer, et elles se sont installées là, quoi. Point final. C'est vraiment pas okay, si intéressant mais que ça.
Est-ce que les insectes sont mentionnés?
Alors, les insectes sont mentionnés parce que c'était effectivement l'argument utilisé notamment par Merlin Tuttle pour justifier de garder les chauves-souris parce que ça permettait notamment aux agriculteurs environnants de pas dépenser des fortunes en pesticides.
Ok.
Mais c'était plus pour les agriculteurs environnants que pour les habitants d'Austin, en fait.
Et là, on arrive au passage qui m'a rendu fou.
Et le passage où Ernest explique que il a voulu raconter une histoire pour ses enfants. Je t'en voilà. promets.
Ah, non, c'est juste que oui, il a voulu raconter une histoire pour ses enfants, et il écrit, hein, c'est clairement écrit en noir sur blanc, ouais, il y a des anachronismes, ouais, c'est voulu.
Voilà, que globalement, il s'en bat les couilles. Qu'il a fait une décennie entière, qu'il a compilé dans un été, qu'il a rempli d'anachronismes et de faits complètement inventés, et il rigole, et il te rit au nez.
Ah putain, mais mes seules contributions pour toute cette saison du podcast, c'était les dates, très fier de moi, tout ça, enfin, j'ai tenu en fait des notes, des comptes vraiment parfaits, et là, il là pour me dire, ouais, c'est voulu, j'ai refait Ready Player One, j'espère que vous m'en voulez pas.
Bah, il a vraiment juste conclu le bouquin avec sa postface qui dit, ta gueule, c'est magique, et c'est, voilà. C'est ce qu'on doit en retenir au final.
Ta gueule, c'est magique, c'est voulu. Puis déjà, il avait déjà refait Ready Player One, Ready Player Two, hein, si je veux juste
oui,
te rappeler.
Mais c'est vraiment... Tu me confirmeras ça puisque t'as lu Armada, mais il sait vraiment faire que ça. C'est du Wikipédia. Il prend une période, il prend des noms propres, des machins, des références, et il les étale sur tout le machin, et c'est rien d'autre. Ce bouquin, sans ces références, c'est rien du tout.
C'est toujours la même période, c'est toujours les 80. Hein. Que ce soit Ready Player One, Ready Player Two, Armada ou ça, c'est toujours les années 80. Ce type, il refuse de grandir, il est bloqué dans sa nostalgie et il n'arrivera jamais à passer le cap, quoi. C'est vraiment... Il fait un blocage complet sur les années 80.
Parce que je t'avouerais que ça fait quand même des mois maintenant qu'on enregistre ce podcast et... De temps en temps, je me sens un peu mal en me disant « Ouais, mais en fait, on contribue à quoi ? On fait quoi ? On critique un bouquin pour enfants. » Ça me faisait chier, tu vois, même quelle que soit la qualité du bouquin et tout ça. Mais vraiment, c'est la même chose que Ready Player One. C'est pas un bouquin pour enfants.
Ah non, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez scandaleux, en vrai. En mettant de côté tout l'aspect second degré un peu sarcastique qu'on a pu user et reuser, suruser, je trouve que c'est honteux, quoi. C'est vraiment médiocre. À 200%. Il n'y a pas un moment où j'ai pris du plaisir, je pense, quoi.
On s'est déjà posé la question plusieurs fois, hein, à qui s'adresse ce livre, et la réponse reste personne. Franchement, à part 16 enfants, peut-être, parce que 16 enfants, je pense qu'il doit les saouler à propos des années 80 depuis leur naissance, hein, les pauvres gamins. Mais sinon, à qui s'adresse ce livre? À personne, franchement. Enfin, je vois pas qui ça peut intéresser, à part peut-être quelqu'un qui a grandi à Austin aux années 80. Voilà, c'est tout.
Tu penses qu'il balade ses enfants dans sa DeLorean?
Ah, mais c'est sûr! C'est sûr! Il balade ses enfants dans sa DeLorean et il fait, hey, regarde, c'est là qu'était Amy's Ice Cream. Et les enfants, ils sont là, genre, ok, super, tu peux conduire plus vite, j'ai faim.
Ouais.
Non, mais, enfin, ça doit être un enfer d'être l'enfant d'Ernest Cline. Ça doit être abominable.
Ça serait une tellement bonne conclusion au podcast. Dommage qu'on s'arrête pas là. Ça aurait été une dernière phrase, mais waouh!
Non, mais parce que j'ai encore des questions, en fait. moi, je me suis posé quelques questions, et notamment, on sait que Opal a une espèce de lien psychique presque télépathique avec les chauves-souris. Et moi, je me suis posé la question, jusqu'où va cette télépathie? Parce que quand on parle de télépathie, moi, je repense toujours aux X-Men, notamment parce que le professeur Xavier est télépathe, et que quand il s'occupe de Jean Grey et d'autres mutants qui sont doués de télépathie, on t'apprend qu'un des premiers trucs qui est difficile, c'est de pas entendre les pensées de tout le monde en permanence, parce que c'est un truc à devenir zinzin. Qu'il faut réussir à focaliser, à couper le truc, à pas écouter en permanence. Et donc, je me suis demandé, est-ce que Opal arrive à contrôler ça? Parce que à aucun moment c'est expliqué, en fait. On t'explique juste qu'elle arrive à parler aux chauves-souris de manière plus ou moins télépathique, mais comment ça se produit? Est-ce qu'elle parle à tout le monde en même temps? Est-ce qu'elle peut focaliser sur une seule chauve-souris? Est-ce qu'elle parle au groupe et tout? Non, non, Ernest, il en a rien à foutre de ça. Il est trop occupé à te name-dropper Willie Nelson et Daniel Johnston. Donc, à aucun moment, ça s'est mentionné. Parce que, notamment, je pense que les chauves-souris, elles, quand elles font leur business, est-ce qu'Opal les entend? Est-ce que quand une chauve-souris mange un moustique, est-ce qu'elle se dit super bon le moustique? Est-ce que Opal entend ça? Est-ce que Opal elle a cette capacité à entendre la moindre pensée de la moindre chauve-souris? Et j'y pensais notamment parce que je parlais un peu plus tôt de ma chatoune Simone qui est actuellement allongée juste devant mon clavier. Donc j'ai peur qu'à n'importe quel moment elle saute sur le clavier et interrompe l'enregistrement comme elle l'a fait un peu plus tôt. Simone, elle est super silencieuse. Alors, elle est zinzin, hein, elle court partout, elle joue tout le temps, elle traumatise mon autre chat. Mais elle est plutôt silencieuse, en fait. Et les seules fois où elle miaule, c'est quand elle va à la caisse. Et donc, avec ma femme, on rigole, on s'imagine que d'un coup, la chatoune a fait « Bon, ben, moi, j'ai envie d'aller débouler un cake. Allez, j'y vais. Allez, je suis en route. Et c'est bon, j'y suis. Je pousse, ça sort. Ah, oh, ça pue, hein. Bon, les gens terrent. » C'est les seules fois où elle parle. Si les chauves-souris font ça, est-ce que Opal les entend? Je veux savoir ça. Je veux savoir, est-ce qu'Opal entend toutes les pensées des chauves-souris? Est-ce qu'elle entend juste quand elle en a envie? Est-ce qu'elle entend...
Titou le tatou, encore une fois.
Est-ce qu'elle entend Titou le tatou? Alors, Titou le tatou, a priori, non. Elle est bloquée sur les chauves-souris, mais...
Ouais, elle est très focus.
Comment les chauves-souris communiquent entre elles? Est-ce que les chauves-souris communiquent entre elles? Est-ce qu'elles communiquent télépathiquement? On sait pas. Les chauves-souris, déjà, dont on a découvert qu'elles savaient lire à un moment, alors que y avait rien... Enfin, c'est vraiment fait, mais complètement par-dessus la jambe. Parce que c'est pas ce qui intéresse Ernest. Ce qui intéresse Ernest, c'est de faire son putain de name-dropping, chose qu'il a déjà fait dans les bouquins d'avant. Alors, je pose la question, à votre avis, est-ce que Opal entend quand une chauve-souris fait caca, par exemple?
Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose où ça doit être un genre de pont, un genre de synchronisation mutuelle où elles ont besoin de discuter ensemble. En tout cas, ça n'a pas été expliqué. J'adorerais qu'Opal ait le cerveau bousillé et saturé d'informations nocives.
tu lui en veux à cette gamine.
Ah bah ouais. Ouais, parce que d'autant plus qu'on apprend que c'est elle la narratrice, enfin tout ça, ouais, je lui en veux d'avoir fait ce truc là. J'en veux surtout à Ernest Cline qui s'est déguisé en petite fille. En fait, tout est malsain, tout est horrible. Voilà.
Ouais.
Brice, une théorie sur les méthodes de communication entre chauves-souris?
Ah non. Je suis juste atterré, donc j'ai pas forcément
Ça t'inspire pas?
Ouais, bah non. Non. Je crois que ma question suivante, ça va bêtement être s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui travaille chez Kobo, comment peut rembourser un bouquin?
En plus, maintenant que tu l'as lu à 100%, je sais pas si tu peux te le faire rembourser. Hein. Je sais pas s'ils ont des stats sur le pourcentage que t'as lu ou je ne sais quoi.
Alors malheureusement, si, j'ai des stats. Attends, je suis en train de rechercher les détails parce que j'avais eu un truc à la fin mais qui m'avait mis une déprime totale où genre j'ai passé 11 heures sur le bouquin et mes sessions, c'est des sessions de 9 minutes. C'était un truc super déprimant comme ça.
Attends, comment ça, des sessions de 9 minutes?
Et ben en fait, à chaque fois que je lisais le bouquin, c'était des sessions de 9 minutes. J'allumais la liseuse.
Il lisait pendant 9 minutes, puis il s'arrêtait, puis il reprenait.
Ah mais tu lisais pas tout d'un coup, toi?
Apparemment non. Faut croire que non.
Mais peut-être tu t'es arrêté pour prendre des notes, je sais pas.
Ah ça y est, je l'ai. Pardon. Alors 12,7 heures de lecture, je sais pas d'où ça sort, mais bon, si c'est vrai, c'est très grave. 9 minutes par session en moyenne, et 3 pages par minute en moyenne.
Oh putain.
T'as torché le truc, hein. Moi, il y a des stats qui me dépriment un petit peu, ce sont les notes de ce livre. Je m'attendais à quelque chose d'absolument catastrophique. On est sur la moyenne à peu près partout. On est à 3,1 sur 5 sur Babelio, 3,5 sur 5 sur Amazon et 6,7 sur 10 sur Booknode. Et moi, je trouve ça affolant, quoi.
Donc, sur Goodreads, ça reste le bouquin d'Ernest le plus mal noté.
Ouais.
Il est plus mal noté que Ready Player 2 encore et que Armada sont mieux notés restant Ready Player 1 qui a la note hallucinante de 4,49. Moi, ça me rend complètement fou de voir ça. 4,49 pour cette merde, c'est assez incroyable. Armada est à 3,56, donc ça se pète bien la gueule. Ready Player 2 3,44 et Bad City 3,40. 3,37 en anglais, Bridge to Bad City, 3,37. Donc 3,37, c'est pas extraordinaire quand même, ça reste largement au-dessus de la moyenne. Je me demande si les gens qui notent sur Goodreads ont pas tendance à noter haut. Mais il y a quand même, globalement, ça s'est quand même bien cassé la gueule.
Déjà, si tu notes ce bouquin sur Goodreads, c'est que il y a une trace à jamais de ce bouquin sur ton profil.
Ouais, c'est ça. C'est
donc faut vouloir en être fier, tu vois.
F- faut l'assumer un peu, ouais.
Mais c'était, c'était, j'ai trouvé que cette saison particulièrement, de par la médiocrité constante et régulière de ce livre, il y a des moments où on a vraiment donné de notre personne, quoi. C'était sacrificiel de se poser pour bouquiner.
Ouais.
Ouais, et j'avais pas eu ce problème avec Ready Player Two qui était chiant à lire, mais au moins on se disait là il y aura du matos pour rigoler et pour se moquer.
Carrément.
Et régulièrement dans celui-là, je me disais mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire quoi, parce que honnêtement il y a rien de rien, c'est le néant absolu ce livre. Parce que globalement quand tu reprends du début, t'as la présentation d'Opal avec sa mère qui meurt, bon voilà, elle va s'installer chez son oncle Roscoe qui est un geek, avec son histoire de ferme et tout sur lequel il est endetté et tout, mais tout ça, c'est du détail qui finalement n'apporte pas grand chose au final. Ça t'apprend juste que Roscoe, il sait pas gérer son argent et on le découvre ensuite quand Fauché, ils vont manger au resto tout le temps, quoi.
Je trouve que le début était super prometteur parce que c'était intéressant, ça posait des trucs. Alors, ça posait des personnages qui allaient peut-être devenir chiants et tout ça, mais au moins ça posait quelque chose. Passer leur passage, une fois arrivé à Austin, c'était vraiment référence musicale et bouffe de moustique.
C'est ça. Et c'est, une fois arrivé à Austin, c'est terminé. C'est-à-dire qu'avant Austin, au moins, t'as la présentation de les chauves-souris, Opal qui commence à parler aux chauves-souris. Enfin, c'est un peu prometteur. Tu dis, ok, bon, où est-ce que ça va nous emmener? Et une fois arrivé à Austin, c'est les chauves-souris qui mettent du mojo partout où elles passent quand elles vont à un concert.
Dégueulasse.
C'est Opal et Elena qui rencontrent des célébrités locales. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on résout le problème, en fait. On a résolu le problème parce que les chauves-souris sont pinko avec des célébrités locales. Et qu'elles ont mis du mojo pendant le conseil municipal. Eh ben, super! 12 chapitres pour ça, quoi. Enfin, c'était vraiment sans aucun intérêt, c'était avec le twist et en fait c'est moi le narratrice. Non mais sans déconner quoi. Enfin, c'était du rien. C'était vraiment d'une tristesse. Alors, je suis assez tranquille sur le fait que ça ne sera jamais adapté au cinéma, hein, déjà que Armada dont les droits avaient été achetés avant même que ça sorte, on l'a toujours pas le film. Ready Player Two à mon avis, soit ils le réécrivent complètement, soit ils ont complètement abandonné l'idée. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'Ernest Cline a encore une carrière et un éditeur, hein, mine de rien. Enfin, on sait pas où en est Ready Player Zero, qui était sa prochaine menace, mais honnêtement, que le fait que ce type ait pu avoir une carrière alors que c'est vraiment un escroc caractérisé depuis son premier bouquin, c'est quand même assez impressionnant. Bon, après, en matière de littérature, hein, Stephanie Meyer a une carrière, l'autrice de Fifty Shades of Grey, dont j'ai oublié le nom, a une carrière. Donc...
J.K. Rowling a une carrière.
J.K. Rowling a une carrière.
J.K. Rowling pétasse. Non, moi je pense qu'il faut. Je sais pas. Est-ce qu'on a malgré nous contribué au succès de ce mec? C'est des questions qui sont importantes de se poser.
Ah, tu penses qu'on a fait une Morbius?
Je sais pas.
Non. Honnêtement, je pense pas. Le premier Ready Player One a été vraiment archi populaire, quoi. Mais vraiment. Enfin, je veux dire au point où c'est Spielberg qui réalise le film, quoi. Non, mais sans déconner. Le premier livre, c'était un phénomène. Même si ça reste inexplicable pour moi, le fait que ce premier livre ait marché autant, c'était vraiment un phénomène. Tout le monde m'en parlait. Il a eu des critiques, mais vraiment dithyrambiques, venant de publications qui, derrière, ont déglingué Ready Player Two en disant « mais c'est de la merde », alors que c'était la même chose que Ready Player One. Vraiment, le premier, il a trompé le monde, quoi. Et je pense que la plupart de ces critiques dithyrambiques refuseront d'admettre qu'ils se sont fait avoir, quoi. À mon avis.
Je ne sais pas. C'est sans doute une des questions qui restera en suspens pour le restant de nos jours.
Eh bien, écoutez, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, moi, je pense qu'on a réussi à répondre à cette question. Qui était cette chauve-souris sur la moto de Canada? C'était Batman.
J'ai hâte de débrancher mon micro une bonne fois pour toutes.
Sur ce, je vous remercie une fois de plus, Camille et Brice, d'être venus vous enquiller cet enfer avec moi. Je savais que je pouvais compter sur
avec
vous.
Plaisir.
Vous avez répondu à l'appel avec brio. Et même si c'était vraiment pénible, écoutez, j'étais quand même content de partager ces moments
pareil.
Avec vous.
Pareil.
Au point où je suis en train de me demander, tu vois, alors pour la blague, je dirais, oui, tu viens nous proposer Ready Player Zero, on te dira oui. En vrai, non. Je crois que non, en fait.
D'ici là, tu auras peut-être oublié et tu voudras remettre le couvert.
En fait, moi, si c'est quelque chose un peu du niveau de Ready Player Two. Pourquoi pas? Si c'est un peu fun, mais là le niveau où c'était, j'y retourne pas quoi. Je suis désolé, je suis complètement abattu.
Non mais honnêtement, je t'en veux pas. Si son prochain bouquin c'est encore un livre pour enfants, je pense qu'on pourra passer notre tour. On n'aura pas besoin. Après, ces autres bouquins, c'est des livres pour grands gamins. Hein. C'est pas non plus des livres vraiment pour adultes. Faut être sérieux 5 minutes quoi. Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs qui ont souffert avec nous dans cette aventure, surtout ceux qui ont aussi lu le livre en même temps. Alors là, je suis vraiment désolé. Vous avez vraiment été super courageux et je m'excuse de vous avoir infligé ça. Sur ce, bah, je vous dis à la revoyure, peut-être un jour, peut-être pour Ready Player Zero, peut-être pour autre chose, on ne sait pas, on verra. Et je vous fais des bisous et n'oubliez pas, vive les chauves-souris du pont!
Bébé, bébé, salut!
Salut!
En production, RPLU.